Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rockozik saison 3. On va vous parler de musique que le vent veut faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi Arnaud et mon partenaire dans le crime. Et oui, monsieur Borgbrythme est toujours là. Comme d'hab, on va vous faire une grosse reco chacun avec plein de petites recos cachées dedans. Et nous allons parler d'un truc en plus à la fin, plus ou moins rattaché à la musique. Vous connaissez notre programme, vous nous connaissez, vous savez où nous allons. Allons-y ensemble, go go go. C'est quoi ta reco, Ororo?
Alors, ma reco de ce soir, c'est la collaboration de Kool Keef et Real Bad Man pour l'album Serpent. You hang with a bunch of dudes cause they say your moms and pops and your family don't love you. You let the thugs hug you. Your lady sleeping with your right hand man, but you do trust her. I'm a street A&R. Your pill popping rap ain't good enough. I noticed all your friends are dying, leaning on the crutch. Your wife loved the life, sneaking out to the strip club, shaking a butt. Lamborghini, Canary limo, your town call me to use Willie Hutch. Everybody involved in music gotta give me a cut. I ain't saying I'm doing extortion, my information calls for a large portion. Anybody talking about pharmacy products, get out my office. Think back when your dad was on heroin, all them billions he lost. Alors, Kool Keef, si vous n'avez jamais entendu son nom, c'est un des patrons du rap indépendant depuis bien 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 longtemps. Il a commencé dans les années 88 dans un groupe qui s'appelle Ultra Magnetic MCs. Et c'est un, je pense, des premiers rappeurs à avoir commencé à parler de, enfin, pas d'autre chose que ce qu'il voyait autour de lui, mais qui commençait à vraiment partir dans des délires vraiment étranges, juste avoir ces petites histoires, des personnages. C'était des personnages qui n'étaient pas des personnages comme par exemple Slick Rick, qui a son historique et son décorum de histoire de pimp. Pour beaucoup, Kool Keef, c'est vraiment juste vraiment plutôt barré. Et une des plus grosses collaborations, c'est avec Dan The Automator, qui a ensuite d'ailleurs produit Gorillaz, pour donner un peu de repère. Et ils ont bossé ensemble sur l'album de Dr. Octagon, donc avec le DJ Qbert, qui est un des plus grands, un des DJ rap et techniques, en fait, qui a gagné très très souvent les compétitions de Scratch. Et ouais, ça, c'est un des mecs qui était banni d'ailleurs de la compétition, parce que du coup, c'était plus drôle en fait pour les autres. Et l'album Dr. Octagon, alors moi, personnellement, je suis pas très très fan, mais faut bien avouer que c'est quand même un petit monument de la bizarrerie, avec donc Kool Keef qui s'invente une personnalité de médecin, mais alors de médecin complètement barré, quoi. Donc, c'est vraiment un album plutôt intéressant pour l'histoire, en tout cas à voir. Il y a quelques morceaux assez cool, donc Blue Flowers par exemple, qui sont un des morceaux que je trouve vraiment les plus cool. Et puis après, donc, il a commencé sa carrière solo, donc voilà, Sex Styles, Diesel Truckers, Black Elvis, Lost in Space. Beaucoup de collaborations avec différentes personnes, notamment avec Cutmaster Kurt, qui est un des DJ producteurs avec qui il a le plus bossé. Mais c'est un type qui a une carrière vraiment en dents de scie, dans le sens où ses projets, dans Octagon, ça s'est bien vendu. Il a même un projet qu'il a fait avec Ice-T, où donc, du coup, ils avaient tous des pseudonymes. Alors, du coup, Ice-T, c'était. Ils avaient pris les noms Black Silver et Pink Rex sur un truc qui s'appelait Analog Brothers. Ice-T, son pseudonyme, c'était Ice Oscillator. Il a plein de trucs différents qu'il a fait à différents moments de sa vie, mais c'est surtout un mec extrêmement productif. Donc, par exemple, un des derniers projets de Kool Keef, qui est généralement considéré comme étant dans ces années récentes, un des meilleurs projets, c'est un projet qui a été fait avec le producteur L'Orange, et l'album s'appelle Time Astonishing. C'est sorti en 2015. Là, l'album Serpents, qui est pour moi le nouveau truc qu'il a sorti qui est vraiment bien, il sort en 2023. Entre 2015 et 2023, Kool Keef, il a sorti 15 albums. 15 albums
Productif, quoi.
dont je n'ai jamais entendu parler. 15 albums qui ont tous l'air horribles. Alors, sûrement des morceaux sympas de temps en temps, tu vois, mais ça, c'est un type avec vraiment une discographie où je pense qu'il faut vraiment être courageux pour se taper tout et faire genre, ok, ce morceau-là est bien. Genre, par exemple, l'album qui vient de sortir, juste après, donc la même année, en 2023, il vient de sortir une suite à Black Elvis. Je l'ai écouté une fois, c'est de la merde en bas. J'étais, mais atterré. Je ne sais même pas comment ils ont pu laisser. Et, enfin, ils ont sorti ça uniquement parce qu'il est marqué Black Elvis dessus et que c'est une suite à un album qui est culte. Et Black Elvis, moi, je le trouve plutôt cool. Après, tout n'est pas irréprochable dessus, mais il y a quand même suffisamment de morceaux sur Black Elvis pour en faire un album vraiment sympa et plutôt mémorable. Et les morceaux qui sont mémorables, là, ils le sont quand même suffisamment pour que. Voilà, tu perds pas ton temps à écouter l'album, quoi. Donc, j'essaie de le retrouver, l'album Lost in Space. Putain, I'm Seeing Robots, il défonce. Keef Turbo, c'est n'importe quoi. Oh, The Girls Don't Like the Jobs. Juste, vraiment, enfin, il y a vraiment un bon paquet de morceaux. Vraiment, vraiment fou. I'm Seeing Robots, il va, enfin, juste pour le refrain, il mérite d'être écouté au moins une fois par an, quoi. I'm Seeing Robots, pa 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 pa. J'en mets vraiment, genre, le refrain, pa 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 pa. Bref, Kool Keef, c'est une grande histoire. Il faut vraiment s'accrocher. Mais celui-là, en revanche, il passe crème. C'est un album
C'est
donc,
un cet
il est
album.
vraiment facile d'accès, il n'y a pas de problème. Real Bad Man, donc c'est un producteur qui est à la fois propriétaire d'une marque de streetwear et d'ailleurs il a une historique dans le streetwear. Je crois qu'il a bossé pour Undefeated et pour d'autres marques
Ouais.
de streetwear. Enfin bref, ce qu'il fait, c'est pas mal. J'ai regardé son site. Il y a une distribution d'ailleurs en Europe. Hein, donc il y a des prix suffisamment, enfin raisonnables entre guillemets. Il hein, faut vouloir payer quand même sa veste 300 euros, mais bon, c'est du streetwear de ce genre. Et il est producteur donc. Ce qu'il fait généralement, c'est plutôt dans le style un peu boom bap, années 90, un peu Wu-Tang, un peu pit rock, ce genre de truc. C'est très sympa. C'est pas du tout super original, mais ça fonctionne toujours très bien. Donc il y a vraiment jamais de problème avec ses prods, elles sont toujours très efficaces. Donc il a deux albums avec Bronte James par exemple, il y en a un avec Pink Saifu, il y en a un avec Smoke Dizzley d'ailleurs. Et surtout, il a cet album-là avec Kool Keef où il sort toujours le meilleur de Kool Keef. C'est-à-dire qu'ils s'amusent bien ensemble, ils lui proposent des trucs assez standards, mais avec des vraies accroches. Et donc, du coup, Kool Keef, après, il peut balancer ce qu'il veut. Alors que, en termes de rap, c'est jamais un type méga technique, mais c'est toujours super intéressant de pointer une oreille à ce qu'il raconte. Parce que, du coup, voilà, il y a un morceau où il balance une réplique comme Manifest Like the Guru, I Got Real Premier Ish. Donc plutôt de manière inventive de référencer Gangstar. Et ailleurs, sur le morceau Jungle Fever, en revanche, t'as Train Monkeys to Buy from Urban Outfitters. J'entraîne des singes à aller acheter des fringues à Urban Outfitters. Pourquoi? Aucune raison. Mais c'est. Voilà, il y a des trucs qui passent dans sa tête et t'es obligé d'être devant ton disque et de dire genre, pourquoi t'as pensé à ça? Comment on en est arrivé là? Mais ça reste toujours une belle aventure. D'ailleurs, pour ça que d'ailleurs Ice-T est de retour sur ce disque pour un morceau d'anthologie. Donc le morceau, alors c'est vers la fin, bah, c'est simplement Battle. Et le
Ça se
morceau
bat
Battle,
avec qui est
voilà,
ouf.
où il commente, où Ice-T commente un match de boxe où différentes personnalités de Kool Keef s'affrontent. Donc il y a Black Elvis, il y a Dr. Doom, il y a différentes personnalités qui se sortent la gueule, et Ice-T qui fait le commentaire, c'est assez dingue. Ice-T qui est aussi d'ailleurs sur le morceau Fire and Ice, qui est aussi très très classe.
Bah, d'où le titre
Ouais.
d'ailleurs, quand tu l'écoutes.
Il y a une vraie bonne harmonie dans le disque, il y a des guests de temps en temps, donc The Looper, ce qui est moins remarquable, même si enfin, d'habitude il est quand même assez hors norme, mais là, je n'ai pas trop bon souvenir de son guest. En revanche, Idan, par exemple, pour le morceau Rugged Rugged, justement, et c'est un morceau plus qui a un petit côté qui est plus proche de ce que fait Idan, quoi, le côté un petit peu rap indé 90, un peu barré. Je trouve ça bien sur le morceau. Le morceau avec le mec d'Atmosphère, avec Slug d'Atmosphère, pareil, il est vraiment, vraiment classe. D'ailleurs, ça m'a redonné envie d'écouter du Atmosphère, alors que j'avais vraiment lâché la peur depuis longtemps. D'ailleurs, le dernier Atmosphère est très bien. Donc, comme quoi. Ouais, il y a vraiment un super flow dans cet album et je le trouve vraiment, vraiment très agréable, sans être une révolution du tout. C'est vraiment le genre d'œuvre que Kool Keef, à son âge, avec son expérience, devrait se consacrer plus à faire ce genre de trucs qui sont pas nécessairement super méga inventifs et grosses prises de risques, mais qui sont vraiment solides et qui lui permettent juste de balancer toutes ses idées comme il veut, sans trop de soucis, et de faire des morceaux ultra solides. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un album vraiment, vraiment efficace et vraiment agréable.
Ouais, je crois que le mot que tu dis est important, c'est efficace. Il est ultra, ultra, méga efficace. Comme tu dis, tu sens la maîtrise du mec, quoi. Tout est, enfin, c'est incroyable. Écoutez, en termes de prod, hein.
Oui, Real Bad Man,
il est maîtrisé, c'est contrôlé, c'est tout.
Donc, il a une bonne maîtrise des samples, quoi. Il arrive toujours à bien les syncoper d'une certaine façon pour que ce soit pas trop. En fait, ce soit jamais cliché. Genre, il y a un type comme Apollo Brown que je trouve toujours solide, mais enfin, sa recette, elle est vraiment mais super prévisible, quoi. Les samples d'Apollo Brown, la manière dont il travaille ses samples de soul, les saturant un petit peu, c'est toujours un peu. D'album en album, le mec fait zéro, zéro changement, quoi. Et je trouve que justement, Real Batman, même si il n'est pas non plus. Voilà, on ne va pas dire qu'il n'a pas de formule, il arrive toujours à trouver quelque chose d'assez correct, en fait, pour que. Même si ce soit toujours du rap un peu à l'ancienne avec des samples à papa, il arrive à trouver quelque chose qui soit assez mémorable, en fait, à chaque morceau.
Il y a une vraie maîtrise technique.
Ouais, dans le bon sens du terme. Fait. Ouais, il sait très bien ce qu'il fait, il connaît bien son matos, il n'essaye pas de faire du grand changement. Mais par rapport à des gens comme Alchemist, par exemple, qui justement voilà, proposent des trucs quand même qui sont assez différents, en tout cas qui a vraiment sa patte, bon voilà, il se pose là comme étant un type que prévisible, mais dans le bon sens, tu vois. Tu t'attends pas à que ce soit de la folie, mais. Ça fonctionne à chaque fois, son nouveau là avec Blue qui est sorti aussi cette année, il est très bien. Et je trouve que Blue d'ailleurs donne de tout son cœur, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Et là, non, il est au top. Donc, je pense que les rappeurs aussi sont assez contents de bosser avec lui parce que visiblement, c'est un type qui a suffisamment une bonne connaissance du domaine en fait. Ses collabs.
Il y a un vrai truc à bosser avec lui. Hein. Ils savent déjà ce qu'ils vont avoir, ils savent comment ils vont l'avoir, ils savent le son qu'ils vont avoir. C'est pas une question. Comme tu dis, c'est pas que ça manque de surprise, mais c'est que t'es pas surpris, mais t'es dans une zone de confort avec une vraie qualité. C'est super bien produit.
Non, c'est de l'orfèvrerie.
Mais tu sors pas du style, tu sors pas de la manière, quoi. Je vois pas comment le dire autrement.
Non, et puis en plus, il s'adapte suffisamment bien, je trouve, avec ses collaborations avec Boldy James, justement. Elle ressemble pas à du Alchemist, mais c'est pas non plus d'être trop trop loin de ce qui fait justement la force de Boldy James. Les morceaux avec Blue, justement, avec un côté un peu plus Mad Lib, justement parce que Blue, en fait, ça lui convient bien aussi. Il a bossé avec un de ses meilleurs albums récents, avec Ono, qui est le frère de Mad Lib. Qui est plus dans un son un peu plus californien, un peu plus comment dire, il a des accroches un peu plus efficaces, un peu plus pop, mais et voilà, la collaboration avec Blue, justement, elle est plus dans ce ton là un peu plus californien, alors que voilà, pour celle avec Kool Keef, il a essayé de faire un peu plus proche de ce qui se fait en rap indé, sans être trop aventureux, quoi. Ça se rapproche pas de trucs comme par exemple Rap Ferreira, qui est un vrai vrai putain de très bon rappeur, et les prods de son dernier album, elles étaient vraiment, vraiment mortelles. Là, bon voilà, c'est pas genre, j'étais pas vraiment à ouvrir de grands yeux en me disant genre ah ouais c'est ouf. En même temps, chaque fois que je regarde les morceaux et que je les écoute, je me souviens tous de exactement de chaque morceau sur l'album en fait. Ils sont tous bien individuels, il y en a qu'une dizaine. Ils sont tous très bien foutus, il y a suffisamment de choses qui les distinguent. C'est voilà, c'est des bons morceaux, c'est juste des bonnes chansons de rap, tout à fait contemporaines, sans être trop, sans vouloir taper dans les modes actuels. Ça s'adresse plus à des quarantenaires, trentenaires un peu nostalgiques qu'à des jeunes gamins qui écoutent, je sais pas, Booba ou Futur, tu vois, je sais pas, mais. En revanche, bah, le fait qu'il bosse avec Baldy James, enfin, ça montre bien qu'il y a quand même un certain public pour ce genre de choses parmi les plus jeunes, quoi.
Oui.
Baldy James, on est un très bon exemple. Hein. J'étais à son concert d'ailleurs à Amsterdam, c'était très cool. Et le mec assure vraiment grave, grave, grave sur scène. Et le public, il était blindé de gamins de 20 ans.
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un son qui est très, enfin, j'allais dire intemporel, mais c'est pas le mot juste. Parce que comme tu parlais de toutes les influences tout à l'heure, qui fonctionnent très bien avec tout le monde, du Madlib, enfin tu vois, il renvoie à tout ce qui se produit récemment, mais il y a une espèce de. Ah, j'avais une image un peu trash entre guillemets qui me venait à tête. C'est une espèce de version ascenseur du style, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où finalement tu l'écoutes sans souci, ça passe toujours bien. De temps en temps tu souris,
Voilà.
tu vas pas être dérangé par l'album, mais il est très bon en soi. Mais
Oui,
c'est pas l'album qui va t'amener, je sais pas comment
non.
dire.
Non, mais c'est pas le premier album de rap que tu pourrais écouter et dire genre,
Ouais,
oh mon
voilà.
Dieu, le rap, c'est incroyable. Genre, c'est genre, non, ça n'a pas te révolutionné la tête, quoi. Mais c'est pas l'idée non plus, quoi. Je trouve que, voilà, c'est vraiment un territoire tout à fait paisible et accueillant.
Balisé.
Ouais, voilà, c'est tout à fait balisé. Mais c'est une bonne après-midi, c'est Disneyland, quoi. C'est Disneyland du rap, quoi. C'est-à-dire que tu vas passer un bon moment avec un peu les figures de proue. Alors, c'est quand même le Disneyland de Kool Keef, hein. Ça reste quand même un peu. Parce que le moment où tu prêtes un peu attention à ce qui se passe autour de toi, tu te dis qu'est-ce qui vient d'être là? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a toujours quand même quelque chose de très surprenant dans les paroles de Kool Keef. Mais faut. Voilà. Si tu le regardes de loin, il passera sans souci et tu ne te donneras pas du tout l'impression d'être dans un rêve un peu sous psilocybine. Alors que bon, Kool Keef, ça reste quand même toujours un des bonhommes dont la production t'amènera toujours à te dire genre, je viens d'écouter quoi là? Et pourtant, il a un flow tout à fait vraiment à l'ancienne. Hein. J'ai écouté justement Ultra Magnetic MCs avant l'émission. Et c'est fou à quel point c'est méga daté années 80, quoi. C'est vraiment, mais ultra. Je crois qu'ils se disent même, il y a un moment où ils se disent la même instrumentale que sur un des premiers albums de Eric Ben Rakim que sur le premier. Je crois que c'est exactement la même instrumentale. Mais ils ont tous un flow tellement un peu étrange, un petit peu décalé. Et puis la manière dont ils racontent des trucs que tu vas tout de suite voir la différence et l'originalité par rapport à. Bah justement, à Rakim, qui avait toujours un flow vraiment ultra maîtrisé, genre à la perfection, la minutie du bonhomme quand il rappelle, genre c'est lent mais uniquement super précis. Et Kool Keef, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est pas imprécis, mais c'est un peu plus flottant, quoi. C'est vraiment, tu poses la question de savoir un petit peu, genre, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu penses d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à le produire en fait, parce que même si tu sais que tu vas, c'est un peu comme Nicolas Cage en fait, bosser avec lui, c'est vraiment dire genre j'ai une prod avec Kool Keef, genre ah ouais, c'est de tous les acteurs qui veulent à tout prix bosser avec Nicolas Cage, qu'importe le projet, tu vois, c'est parce que tu sais que tu vas passer, enfin tu vas avoir une petite leçon, quoi, tu vas avoir un mec qui va se donner à donf, tu te dis genre ah ouais quand même putain. C'est Cage,
Ouais.
quoi. Je pense que Kool Keef, c'est un peu le Nicolas Cage du rap. Hein. La
Ouais.
comparaison
Je ne sais
se tient
pas.
très
Je
bien.
trouve que. Je dirais que je trouve quand même qu'il offre une plus grande. À comparatif artistique, on va dire qu'il offre une meilleure. Je trouve qu'il me semble plus complet que Nicolas Cage.
Non, 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 non. Nicolas Cage et Kool Keef, je pense, en termes de bide. Et de réussite, je pense qu'il y a un taux assez similaire, tu vois. Le nombre de films de Nicolas Cage, tu fais genre, non. Et puis, il y a des fois, des moments où tu fais genre, Waouh, genre son nouveau truc là, qui vient de sortir, où il apparaît dans les rêves des gens, ça a l'air ouf!
Il a même
Mais
pas vu
genre, ça a
ça.
l'air vraiment bien, quoi. Genre, il joue vraiment, il a joué de jouer de manière vachement différente. C'est un vrai challenge en tant qu'acteur en plus, donc ça lui convient trop trop bien, je trouve. Alors que le truc qu'il avait fait, où il était justement, il jouait son propre rôle, où il devait s'occuper pas d'une prise d'otage, mais d'un dealer de drogue qui était fan de ses films. Bon bah voilà, c'est le genre de truc qui devrait pas passer au cinéma, qui serait du direct au DVD ou direct au streaming, et puis c'est tout quoi. Mais voilà, il est tout à fait correct à chaque fois, tu sais que tu vas pas passer normalement forcément un très mauvais moment, mais tu vas aussi dire un petit peu genre ouais, bon, c'était pas indispensable. Bon bah Cool Keith c'est un peu pareil quoi, il y a des trucs qui sont plus ou moins indispensables que d'autres, mais quand il se bouge, il se bouge,
Ouais.
ça vaut le coup.
En tout cas, moi, celui-là, moi, j'ai passé un bon moment. Il est passé dans mes. C'est typiquement le genre d'album que je me mets en faisant autre chose.
Oui
Tu
bah
vois?
oui.
Parce que c'est pas une écoute désagréable, mais c'est pas une écoute full up attentive, quoi.
Ah oui non, je savais bien qu'en mettant ça, je n'allais pas te remettre en question.
Non, c'est pas le but du jeu non plus.
C'était pas l'idée, quoi. Pour donner un peu de contexte, hein, je fais toujours attention à la programmation quand on met nos épisodes. Je vois un petit peu qu'est-ce que je peux proposer à Arnaud en fonction du temps qu'on va avoir pour préparer l'épisode. Et là, pour un coup, c'était vraiment un album. Genre, bon, bah, je peux lui soumettre ça parce que il va pas avoir à faire trop de recherches dessus. Et ça va être très reposant et ça va lui convenir très bien. Voilà, j'étais pas en mode genre, allez, un petit Karlen
Mais
Stockhausen.
si, il
Non,
faut.
mais pas en 2 jours. Genre, on se
C'est vrai
prépare,
qu'on
on se
enregistre un
rattrape.
peu rapidement là, du coup, et
Voilà, on
surtout, mais
enregistre un peu
bon.
rapidement. Donc, faut, voilà, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer le risque. Donc, voilà,
Ouais, là,
cette
c'est sûr
fois-ci.
que style, en termes de pur style, là, tu prenais pas de risque avec moi, c'est le genre de
Non.
choses dont je suis toujours client.
Exactement.
Le seul truc qui m'a fait des fois un peu bizarre, c'est que je trouve très souvent que la prod et le mix sont bien meilleurs que le texte. Il y a vraiment un gap entre les deux.
Bah,
Et.
c'est parce qu'il faut vraiment prêter attention à ce qu'il raconte, en fait.
Ouais, mais. Je sais pas, je trouve que des fois. Alors, disons plutôt, on va dire autrement. Je trouve que sur le lyrics, c'est beaucoup plus inégal que ça ne l'est sur le mix.
Oui, ça, je suis d'accord.
Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je dise pour être bien clair dans la logique.
Parce que c'est toujours bien rappé, mais après, effectivement, il y a des moments où tu dis genre, bon, ok, et puis des moments où tu dis genre, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Ouais, c'est moins. C'est un
Ça
peu.
mérite plus de prendre le temps, mais voilà, c'est le charme des productions Kool Keith. Enfin, moi, je dis, je trouve que je sais pas. Alors, il y a des fans de Kool Keith, il y a vraiment des gens qui sont ultra
Ah, c'est
hardcore
logique, hein.
dessus, ouais, grave, mais je sais pas comment ils défendent tous les projets, tu vois, ou en tout cas, même les projets les plus renommés. Je me demande vraiment comme s'il y a des gens qui font genre non, tu vois, cet album-là, genre tous les morceaux défoncent, genre ouais.
Oui.
Peut-être pas forcément, tu vois. Mais en même temps, quand ça défonce, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est du grand spectacle, c'est vraiment vraiment fou, hein. Encore une fois, hein, I see robots, ta 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 ta,
Ouais.
c'est impossible, hein. Je pense que je l'aurais écouté une à deux fois par an, quoi, parce que obligatoirement, quoi. Tu reviens sur le disque, tu te dis, ah, il y a vraiment des idées, il y a de quoi exploiter comment dire, des veines entières d'une mine de rap, en fait. Et la veine Kool Keef, c'est toujours dire, genre, putain, qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Ah ouais! C'est un de ces grands noms qu'en fait, qui survole, qui surnage dans le mainstream et dans l'underground, quoi. Et qui, je pense, enfin, je sais pas comment il fait sa vie, quoi. Il a l'air d'être. C'est vraiment un phénomène, ce bonhomme, quoi. Je sais vraiment pas comment il gère ses trucs.
Ouais.
Mais ouais, alors, Dizzy Trockers, d'ailleurs, je tiens à le mentionner, ça, parce que c'est un disque qui vaut le coup juste pour le premier morceau. Mais l'accroche est faite avec, tu sais, de la sonnerie de camion. Genre,
Ah, le klaxon.
le klaxon de
Des gros
camion,
camions, là.
ouais, sur le premier morceau, Dizzy Trockers, le beat est fat, mais genre, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et le refrain, c'est « These truckers, 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 you are the best !» C'est,
non mais quelle idée.
C'est magnifique. Je crois qu'il n'y a aucun autre morceau sur l'album qui vaut le coup. Mais celui-là, ce morceau est juste mais, vraiment, vraiment de l'orfèvrerie. Donc voilà, allez-y, prenez cet album. Et puis bah, après, voilà, naviguez sur Black Elvis, sur Dr. Octagon. Le premier morceau de Diesel Truckers, pour sûr. Sex Ties, je sais que c'est un qui a une bonne réputation. Dr. Doom aussi, le premier Dr. Doom, First Come, First Served. Il a, voilà, dans les premiers, il a une vraie bonne réputation. Et puis bah, Time Astonishing avec l'Orange, c'était un de ceux qui est toujours. Qui a un peu. Remis Kool Keef sur le vent de la scène, quoi. Mais ouais, quand je regarde sa discographie, il y a vraiment mais un paquet de trucs qui sont pas du tout recommandables, quoi.
Ouais, c'était non, mais c'est pas qu'ils soient pas recommandables, c'est qu'ils sont il y en a certains, c'est quand même limite pas écoutable, même, faut être honnête, quoi. Si tu l'écoutes pas, si t'aimes un tout petit peu ce style, quoi, parce que c'est pas, je sais pas comment le qualifier, ça, c'est pas que ce soit, bah, c'est moche, quoi. C'est banal,
bah écoute,
c'est banal, c'est quoi, c'est vraiment banal.
Bon,
alors que cet album l'est pas,
oui,
c'est
non,
ça
non,
qui est marrant.
Cet album est vraiment vraiment efficace, donc c'est ma recours pour cette fois, pour ce soir.
Ouais,
album,
c'était
l'album
donc...
Serpents de Kool Keef et Real Batman.
Real Bad. On va passer à Marocco à moi, qui est d'un style très différent. Alors, Marocco à moi, c'est l'album Unition Life de Brutus. Alors oui, ça y est, je suis passé dans le shoegaze, il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont pas se manquer, mais là, non, je suis pas d'accord, et on va voir pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Brutus ? C'est un groupe de Belges qui date de 2014, quand on est à son troisième album, oui c'est ça, trois albums. Chose rare dans ce milieu, c'est trois albums produits sous le même label avec la même personne. Jess Gander, dont j'avais déjà moi entendu parler dans le cas de White Lungs. Et donc voilà, honnêtement, je ne les connaissais pas avant d'écouter cet album. Je n'arrive pas à savoir comment ça a popé dans mes recos, mais ça a popé. Honnêtement, j'étais pas prêt à écouter cet album quand je l'ai entendu. Je suis resté assez scotché parce que je trouve que la voix est étonnante. Alors, je dirais pas qu'elle est belle, qu'elle est maîtrisée, qu'elle est contrôlée. Parce que je trouve que même sur la version album, il y a des fois, ça sonne tellement bizarre, la voix. Mais je trouve que ce qu'ils ont écrit en termes de compo sur cet album, et sur ce qu'elle fait avec sa voix, donc la chanteuse du groupe qui s'appelle, que je ne l'écorche pas, Stéphanie Manaers, c'est incroyable. Ça crée un univers, d'une sensation, un son qui est vraiment super, super prenant. Moi, je suis vraiment tombé amoureux. Alors, honnêtement, de cet album, parce que j'ai écouté celui d'avant qui s'appelait Nest, j'ai moins apprécié, j'ai pas essayé leur premier qui s'appelait Burst, mais je trouve que là, il y a vraiment un truc... je trouve qu'ils ont obtenu un vrai point d'équilibre entre ce qu'elle est capable de produire vocalement, ce qu'ils ont envie d'écrire et ce qu'ils ont envie de dire. Et du coup, c'est un album avec un son super particulier. Shoegaze, j'aurais plutôt dit post-hardcore.
Oui, ça n'a rien à voir avec
plutôt.
Shoegaze, Brutus.
Bah pourtant, il est qualifié partout
de shoegaze. Mais les gens, il n'y a rien à voir de shoegaze dans ce qu'ils font. C'est juste du... Ouais. Il y a des éléments un peu post-rock, mais enfin, c'est pas du tout. En plus, enfin, c'est surtout un groupe qui tient beaucoup d'énergie, parce que bah, je sais pas si tu l'as vu ou dans tes notes, mais enfin, la manière dont elle chante, en fait, vient du fait que aussi c'est la batteuse du groupe.
Oui,
et les prises voix, je suis sûr qu'ils seraient, ils les ont pris peut-être de la même façon en fait. Après, moi je trouve la voix vraiment extrêmement bien maîtrisée, justement. Je la trouve pas.
Ah, mais oui!
Elle a un petit côté un peu crust en fait. J'ai un groupe qui a justement un petit côté des rythmiques un petit peu crustouille. Et je trouve que justement, il maîtrise super bien l'entrée. Alors, j'ai jamais vraiment tellement rentré dans mon Brutus. C'est alors que sur scène, c'est vraiment vraiment ouf. Je les ai vu ouvrir pour Converge il y a quelques années à Londres, et voilà, tu restes devant, tu te dis ah ouais quand même, elle assure, mais juste du début jusqu'à la fin, c'est vraiment super maîtrisé, parce que le son là que t'as sur le disque, sur scène ils ont le même. C'est elle chante aussi bien que ça.
Tu vois, je vais aller voir sur scène parce que.
Ouais. Ah, mais il tourne à fond, hein. C'est vraiment Brutus. À mon avis, dans quelques mois, tu peux les revoir parce qu'en plus, il réédite cet album-là, vu que ça a été un gros, gros, gros succès critique et tout. Et j'ai l'impression
que. J'ai vu qu'ils avaient au moins un, voire deux nouveaux morceaux qui allaient être ajoutés.
Ouais, il y a une réédition qui sort là avec deux autres morceaux. Et il y a un public pour ça, hein. Je pense que là pour le coup, moi j'étais pas chopé sur sur la retournée, parce que bah du coup l'album, en fait, même si j'étais assez chaud, j'avais bien aimé certains des morceaux, morceau Chain Life particulièrement, les trucs qu'ils avaient sortis avant la sortie du disque, pas Dust, Liar ou What Have We Done, je sais que je les avais vraiment fait tourner, le petit genre ah ouais, c'est vachement bien. Et en fait, quand le disque est sorti, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Quoi.
C'est marrant, moi c'est
ce qui est assez triste. Oui, mais...
Moi je me suis fait surprendre puisqu'il a popé dans mes recos. Et non, moi je me suis dit, alors comme je disais, je voudrais juste dire, c'est pas qu'elle chante mal, hein. C'est qu'elle a une façon de le faire avec parfois une voix très éraillée, très cassée, qui volontairement, enfin, tu sens,
ouais, tant mieux, hein.
Volontairement décalée, voire parfois fausse, mais c'est incroyablement maîtrisé, quoi, parce que comme je dis, ouais. Ça s'articule impeccablement avec la compo. Et c'est vraiment, moi je trouve ça génial, quoi.
C'est surtout ça qui fait que le groupe fonctionne bien, ouais. Hein, c'est que justement, c'est facile. C'est un cliché plutôt quand tu as une femme au chant, de faire une voix qui soit extrêmement propre et extrêmement pop, en fait. Le nombre de groupes de métal qui font ça, et c'est juste fatigant et presque sexiste, quoi, de toujours avoir les mêmes trucs. Et en fait, je trouve que elle, en revanche, elle sonne juste naturelle, en fait. Et surtout en tant que batteuse, quoi. Elle a un jeu qui est vraiment, vraiment super musclé, quoi. Et vraiment, enfin, voilà, toutes les parties rythmiques, où, voilà, je trouve que c'est un disque presque de crust. C'est pour ça que je trouve le des shoegaze, genre.
Je te dis, je l'ai vu dans plein de critiques. Ouais, ça m'a vachement surpris.
Il y a des gens qui devraient écouter ce que c'est que le shoegaze. Pas du tout. Je vois pas du tout le truc, quoi. Parce que c'est vraiment un machin, je trouve, justement, beaucoup plus post-hardcore. Beaucoup plus, justement, ils ont un vrai. Il y a vraiment du gros muscle. Le groupe qui s'appelle. Je trouve le groupe mérite son nom de Brutus, en fait.
Et je trouve en plus que pour rentrer dans le post-hardcore, c'est un super album. Si tu connais pas un peu la tendance, je trouve qu'il est parfait pour ça.
Oui, non, je pense que c'est justement un groupe qui réussit bien son. Enfin, qui doit plaire à un public qui n'est pas nécessairement habitué à ce genre de sonorité et qui doit tourner, en fait, et accueillir un public qui est. Pas du tout le public qui écoute tous les classiques du genre, en fait. Je pense d'ailleurs qu'il y a des chances que ça devienne un nouveau classique du genre, parce que pour le coup, il y a vraiment un engouement autour de ce groupe. Je sais pas à quel point ça se reflète dans les ventes et s'ils peuvent commencer à vivre de leur musique grâce à ça. J'en serais malheureusement un peu étonné, parce que c'est quand même un peu impardonnable comme univers musical, mais... En tout cas, il tourne à fond. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il repasse sur Paris.
J'aimerais bien savoir.
Ouais. Eh ben tiens, attends, ils sont censés passer le 30 décembre au Paradiso, genre à Amsterdam. Genre pour... Ok, et en fait, la semaine prochaine, ils sont au Rex, à Toulouse, Biarritz, Paris. Alors, attends, est-ce qu'ils est passé à Paris? Bah, tu sais qu'ils sont peut-être même passés à Paris en fait cette semaine, tu les as
Ils sont le 5
coupés.
octobre. Ah là, ils annoncent une tournée. Je viens de tomber sur.
Le 5 décembre, ils sont au Tramendo.
Et à partir, ils viennent d'annoncer une tournée France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse.
Voilà, donc écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon gars. Tu prends ta petite place pour le Tramendo, en plus, une jolie petite salle, donc cool. Et tu vas voir Brutus, parce que c'est franchement, si t'as aimé l'album, à mon avis, tu vas prendre une
Ouais,
grosse claque en les voyant sur scène. Hein. Parce que honnêtement, enfin, même moi qui a du mal à rentrer dans le groupe, je sais, enfin, ils sont sur scène, c'est méga méga solide, quoi. Il y a vraiment rien à redire. Et pas parce que genre c'est un groupe qui a la pêche, tu vois, genre des genres de clichés, genre. Ouais, tu vois, mais ça saute partout quand même, alors tu vois, c'est la joie, genre. Non, en fait, c'est parce que ces mecs qui maîtrisent super bien leur musique, ils le font extrêmement bien, et ouais, en fait, c'est juste aussi très très communicatif, en fait, en tout en étant vraiment très touchant, donc ça, c'est vraiment un groupe qui fonctionne méga bien, et tu vois, même en voyant la date, là, en plus avec des groupes, j'ai rien à foutre, le 30 décembre, honnêtement. Moi, je suis pas contre aller voir Brutus, tu vois, le 30 décembre, tu vois, les concerts de Noël, ou pas de Noël, pardon, du coup du Nouvel An. Moi, c'est vraiment totalement mon truc. Alors que c'est un groupe, tu vois, pour le coup, honnêtement, réécouter le disque m'a un peu plus convaincu.
Ouais.
Bravo, l'avoir mis dans le truc, parce que ben, quand j'ai réécouté, je me suis un peu plus commencé à me dire, genre, ouais, faudrait que je le réécoute comme ça, mais il est pas. C'est pas qu'il est pas si mal, c'est que en fait j'aime bien. C'est toujours le problème avec Brutus, c'est que c'est pas que je trouve ça mauvais, qu'il y a un truc qui me dérange. Non, je cherche, j'écoute, je me dis à chaque fois, genre, mais c'est quoi le problème? Et en fait, genre, je sais pas c'est quoi le problème, juste j'accroche pas, mais il y a rien à redire. C'est un album, je peux pas du tout cracher dessus, je peux pas genre trouver à redire sur la prod et tout, genre non, c'est enfin. Rien, on parle, là, qu'on en parle, le morceau What Have We Done, là, l'espèce de grosse mélodie, la manière dont elle chante sur le
Ouais.
refrain, c'est juste vraiment, vraiment ultra touchant, quoi. Non, vraiment plus au groupe.
Ouais, non, mais moi je dis, ça me conforte bien le prime sentiment que j'avais eu à la première écoute et comment j'ai découvert. Par contre, comme dit, moi, le vrai truc, c'est que je trouve que cet album est vraiment abouti. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que les ceux d'avant, je les trouve moins intéressants, on va dire.
Ouais, bah écoute, moi je pense qu'ils progressent bien. Je sais pas du tout comment ils vont, comment ça va évoluer, mais en tout cas, je pense que comme c'est un groupe tellement live, je les vois mal devenir plus. Les devenir moins rentre-dedans en fait.
Ah non, alors c'est pas leur évolution, c'est vraiment. Là, ils ont atteint pour
Un
moi
palier quoi.
un vrai truc qui font que. Et puis qui donne cet album. Je dis, cet album est vraiment réussi, vraiment abouti. C'est une porte d'entrée pour le post. Ah, pardon, le post-hardcore. Moi, je trouve vraiment que sa voix, elle est fascinante. Fascinante, vraiment.
Ah non,
Un
mais.
truc du Björk de début de carrière, pas du tout dans le même style, mais dans le côté. Mais comment elle fait ça avec sa voix? Pourquoi elle a ce
Non,
rythme-là?
c'est
Après, j'ai découvert que
incomparable.
c'était elle la batteuse parce que je connaissais pas le groupe, donc je me dis, putain, mais ok, je comprends, il y a un jeu de respiration au niveau de la dépense énergétique pour pouvoir chanter et taper qui doit être assez ouf. Non, non, moi, vraiment, je suis fasciné par le résultat, je suis fasciné par l'histoire du groupe, mais je suis fasciné par cet album, que c'est bien le vrai truc, quoi.
Non, mais c'est un vrai tournant pour eux. Hein. C'est clair que c'est plus Björk que Phil Collins, on est d'accord.
Oui, c'est sûr. J'avais pas pensé à Phil Collins, ça part pour la. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça pourrait être ça.
Hein. Ouais, mais en même temps, Phil Collins, hein, c'est parti de batterie, elles sont
Ouais.
adaptées tout à fait à son chant, hein, parce que, bien évident, quoi. Mais c'est aussi ça, et pour le coup, je trouve qu'elle fait pas de cadeau avec ses poumons hein, sur ses morceaux. Hein.
Ouais, non, allez. Non, non, elle est impressionnante. Elle est incroyablement impressionnante. Pour info, c'est 27,50 € la place au
Bon, ça va,
Tramendo.
c'est que dalle. Hein. Enfin, c'est que dalle.
C'est pas
Pour
cher.
une place de Trabendo, en fait, c'est dans la moyenne, en fait. Et
Ouais, non,
ben, pour un
non.
groupe qui tourne autant qu'eux et qui justement, a une bonne petite fin. J'allais pas dire une hype, en fait, mais juste. Enfin, parce que C'est pas comme s'ils sortaient de nulle part, en fait. Ils sont vraiment...
C'est pas faux.
Ils cravagent depuis longtemps. Moi, les potes qui étaient avec moi quand je les ai vus sur scène, c'est-à-dire genre, ah ouais, ouais, j'avais bien les albums précédents, tu vois, c'est des gens qui suivaient déjà l'affaire depuis quelques temps. Donc, c'est un groupe qui tourne quand même depuis pas mal de temps et qui donne tout ce qu'il faut. Parce que bon, le premier album, il y a 2017, 2019, 2022... C'est plutôt constant, hein, même entre 2009 et 2022, en sachant qu'il y a une pandémie entre les deux, tu vois,
Oui,
c'est...
puis ils ont même sorti, ils en ont en 2020 sorti un live
Ouais,
d'une partie de
la
leur
vague à
truc.
Gand, ouais, non, non, ça tient, ça a bien bien
Non.
longtemps.
Ouais. Je sais pas si on l'a dit, mais ils sont
Oui,
belges d'origine.
c'est des
C'est un...
Belges. C'est des Belges, ce
Voilà.
qui est assez rare d'ailleurs, parce que pour le coup, même s'il y a pas mal de choses en Belgique, c'est pas évident
Ouais.
pour les groupes belges de se faire connaître. Je crois qu'il y avait quoi? Il y avait. Ah putain, il y a un groupe belge de rock qui avait vachement bien marché, mais dont le nom m'échappe. Il y a le chanson.
En pur
Ouais,
rock.
un truc, je crois que le chanteur s'appelait Starfucker, un truc comme ça. Non mais vraiment, genre, le mec avait un peu un côté un peu trop. Je suis une grosse star. Je l'ai eu d'ailleurs à Dour et c'était insupportable. J'avais à rester en mode genre, c'est vraiment au con en fait, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Mais en tout cas, ouais, c'est
Ouais.
pas évident pour des groupes belges, surtout enfin, dans le genre, quoi. Enfin, il y en a, quoi, mais juste ils sont pas forcément à ce point-là. Alors que pour le coup, ça marche bien l'international, enfin, ça marche suffisamment bien pour l'international pour être remarquable pour un groupe belge, quoi.
Non,
Enfin,
non, mais c'est clair.
pardon,
Puis
à
je
part
comprends le
Amenra,
succès de cet
pardon.
album, quoi.
J'ai oublié Amenra l'espace d'un instant. Donc, à part Amenra, qui du coup, voilà, c'est un peu le phénomène belge.
Non, mais c'est... Moi, je trouve que... Enfin, la qualité de cet album fait que je comprends le
Oui, bien
succès, tu
sûr,
vois,
ouais.
c'est...
Non, mais c'est pareil, hein.
Il y a un vrai,
Ouais,
vrai
non, on
truc.
est d'accord.
Il y a un vrai, vrai truc. C'était donc, sauf si tu
Non,
veux autre
mais
chose à
bon.
ajouter, Marocco du soir, Brutus, qui vient de sortir. Ouais, c'est bien. Oui, parce que je précise, c'est un album de l'année.
Non, c'est un de
Unison
l'année
Live.
dernière. Il est réédité cette
Non.
année.
Ah oui, ça, hein, putain, pardon, oui, c'est vrai il est réédité avec deux nouveaux
Voilà,
titres, hein, au
Unison Live,
minimum.
il était l'année dernière, mais bon.
Il était l'année dernière, pardon, donc c'est l'album de. Ouais, ça va, 2022. Bon, ça va, j'y étais
Presque.
presque. On va passer à notre petit truc en plus. C'est toi qui as
Yes.
suggéré au départ.
Oui. Parce que c'est une BD qui s'appelle Metal. Et donc du coup, bon, le métal maintenant ça marche en France, hein, je pense les gens ont bien compris qu'il n'y avait pas de profanateurs de Sépulture, ou que, bon,
Pas
il n'y a
que.
pas que des professionnels de Sépulture, bon, après bien entendu ça vient avec le fait que maintenant du coup tout le monde dans le métal est très gentil, alors que il y a aussi une grosse marée de sales cons, donc désolé, mais maintenant ça devient un produit marketing qui peut s'adresser à un plus large public. Et du coup, moi j'ai vu la pochette, donc la couverture de cette BD, donc qui sort chez l'édition Petit à Petit. Je me suis d'abord fait la réflexion de dire, genre, tiens, ils sortent une histoire, genre une
Une
aventure d'une
anthologie.
nana qui serait fan de métal et bon, il lui arrive différents trucs, tu vois. Et en fait, pas du tout. D'autant plus que c'est en fait pas du tout la spécialité de la maison d'édition. Donc Petit à Petit, ils font surtout de l'histoire. Alors, donc, ils font de l'histoire de villes de France, alors Rennes, Avignon, Narbonne. Ils ont fait aussi des trucs faits historiques, comme en sport, en tout cas, 24 heures du Mans, Coupe du monde de rugby. Et puis, ils font aussi des biographies de musiciens. Donc, en parlant, alors, ils ont fait Nina Simone, Otis Redding, ils ont fait aussi AC/DC, enfin, ils font plein de trucs. Et là, pour ce projet-là, donc scénarisé en tout cas, vu d'ensemble par, ou il dit peut-être édité, par Fabrice Rinaudot, alors qu'un type qui a écrit un roman qui s'appelle Liquider vos idoles et qui a fait une BD avant, en tout cas au moins une, s'appelle Prison. Voilà, je sais pas quelles sont c'est vraiment ce qui vaut en tout cas en tant qu'auteur, mais c'est lui qui est derrière le projet en tout cas en tant que scénariste. Hein. Et en revanche, ils ont invité un paquet de dessinateurs, hein, qui dessinateurs et dessinatrices, qui vont de styles assez variés. Donc, il y a Will Arcunas, par exemple, j'ai regardé un peu le style, qui fait justement un peu plus réaliste, on va dire. et qui avait déjà bossé sur la BD sur ACDC, mais d'autres artistes alors comme Anne Royan, alors qui avait bossé sur Nina Simone et Otis Redding, ou Mad avec 2D, qui lui en revanche a bossé sur un truc qui s'appelle Poltron Minet, une BD pour enfants, mais qui ont des styles en fait qui s'adressent plus à des justement de la littérature jeunesse ou enfin un style beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus doux, genre beaucoup plus coloré, avec voilà, vraiment totalement différent de ce que on peut attendre en fait d'un album de métal. Enfin, quand tu vois métal, tu te dis genre oh, il va y avoir du sang et des crânes, et en fait bah non, visiblement ils font plein de trucs, parce qu'en fait l'idée du volume, visiblement, c'est d'introduire un peu différents genres de métal. Donc c'est un espèce de documentaire, donc docu-BD, dont l'objectif est présenté, alors je sais pas quelle est la taille du volume, mais bon, il doit présenter une vingtaine de trucs, donc j'imagine que ça prend peut-être au moins, je sais pas, 6 pages à chaque fois, une dizaine de pages pour introduire un genre musical, ou en tout cas des figures marquantes. Donc, par exemple, il y a un passage sur Slipknot, il y a un passage sur un Metallica, il y a un passage sur Rage Against the Machine, mais un peu comme dans la collection 3/4 dont on avait déjà parlé, c'est un volume en fait où les manières d'introduire les groupes est très différent en fait. Donc par exemple, ce qu'on peut voir dans les extraits sur le site, c'est que Rage Against the Machine s'introduit sous le point de vue de fans qui se font recommander le CD à un disquaire et qui rentrent chez eux ensemble, et chacun va avoir leur manière d'appréhender le groupe sur le fait que y a un mec qui rappe, qu'est-ce que c'est que ces riffs, le son et tout. Donc t'as le point de vue extérieur, le point de vue un peu intérieur, donc dans Slipknot ça introduit avec les membres du groupe qui se présentent, donc chacun s'exprime. Et puis Metallica, qui est plus là le côté historique pour le coup, où on retrace des faits marquants. Donc là, l'extrait de la BD montre Dave Mustaine quand il s'est fait virer de Metallica, événement historique qui a amené à la création de Megadeth et à sûrement une facture incroyable de psychologue pour Dave Mustaine, qui a dû consulter pendant des années par la suite. Non mais on se moque, mais en même temps le mec s'en est jamais remis. Enfin, il a l'air d'aller mieux maintenant, mais ça c'est...
Ah, c'est tout ouais, ton alcoolisme, oui, il est menaçant, franchement.
Et puis l'héroïne aussi, c'est tout un, oui, tout un petit cocktail. Quoi.
Voilà, ce qui est surconsommé, on va dire.
Donc, il y a du coup pas mal de portes d'entrée, en fait. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, les docu-BD, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est vachement développé en France. Je sais pas si toi, t'en as lu beaucoup.
Oui, alors, oui, quelques-unes. Mais c'est pas trop ma tasse de thé. Laurent est très très fan, il en a pas mal. Moi j'ai du mal avec ça, je préfère lire
un bouquin, quoi.
À la limite des choses plus écrites, moins BD pour ce type d'infos. J'aime bien garder la BD pour des univers différents. Pour info, celui-là fait 160 pages et en 26 par 19. Il est grand. Il est grand, il est lourd, il fait presque, d'après le déclaratif, il fait 768 grammes, donc c'est quand même une belle édition,
d'accord,
gros format, c'est un beau pavé.
Du cadeau de Noël pour du coup, là, si vous avez. Ouais.
Mais à 21,90. C'est une belle édition pour pas cher.
Oui, parce que c'est pour ça que je me disais bien aussi, genre 21,90 pour une BD cartonnée et tout, c'est pas nécessairement méga cher en fait.
Non, elle est un grand format, on va raccourcir
c'est
à 4,
le,
on va dire.
C'est vraiment le truc fait pour être un cadeau pas trop cher, mais qui soit cool, en fait, pour quelqu'un que vous savez qu'il écoute des groupes de métal et vous dire, genre, bon, ça va pas trop faire de...
Alors, il est construit autour de ce que j'en sais, il est construit autour de... Alors, je vais pas dire de... Je suis sur le site de l'éditeur.
Pour que pas de mauvais truc. De ce que tu crois que je sorte de l'information.
Ouais. Surtout moi après je vais voir sur le tu avais tout hein. 192 pages au final au total hors couverture inclus et du coup apparemment il présente une vingtaine de mouvements, enfin une vingtaine d'anecdotes qui constituent pour eux la création du mouvement.
C'est une biographie, enfin, ça se veut très sélectif, quoi, mais
c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a l'anecdote donc de la sur Metallica, voilà, qu'on a le début d'histoire de Slipknot. Quand ils sont blindés, gavés non-stop, qu'ils racontent. Par contre, moi, ce qui me fascine, c'est la diversité des styles.
Ça a l'air justement assez large, en fait. C'est ça qui rend du coup le truc plus intéressant, parce que perso, moi, une BD qui serait faite uniquement avec un style très, justement, très métal cliché, en fait, alors, même si, enfin, cliché, ça laisse quand même comme quelque chose d'assez très négatif, mais qui soit... un peu trop sombre, un peu genre tu vois, genre pochette d'album, tu vois, ça me saoulerait un peu, parce que autant ça marche sur une pochette, autant pour raconter une histoire, c'est pas forcément la même chose, quoi. Et de voir en fait un artiste comme Mad, par exemple Marie Milotte, qui a fait un livre pour enfants qui s'appelle Le Bébé Hibou, qui est très très mignon, et pour le coup, voilà, ça, c'est le genre de truc qui est beaucoup plus d'engagement pour moi, en fait. J'ai vu qu'il y avait une des planches qui était un peu plus Moebius, un peu plus psyché et tout, donc c'est...
qui est apparemment sur l'explication du Guitar Hero, et je trouve que ça tape sur sa trinie de façon magnifique, mais si vous voulez voir juste cet extrait, ça me fait beaucoup rire.
Pas attention au dialogue, même si j'ai vu qu'il mentionnait sa trinie, parce que forcément le Silver Surfer et tout...
Ils font dire à Satriani, je ne suis pas de cette terre, mon nom est Joe Satriani, et je veux offrir à l'humanité ma musique qui rayonne déjà aux quatre coins du cosmos.
Ça surkiffe. Ça fait partie du truc. Mais ouais. Ça a l'air. Enfin, moi, personnellement, je suis assez client.
Ah, oui, moi aussi à mort, là, pour le coup. Alors, pour le sujet, mais surtout que je trouve que. L'idée de traiter avec des styles différents chaque point qu'ils ont choisi, chaque angle qu'ils ont choisi pour raconter l'histoire du mouvement, moi je suis à fond. Quoi.
Après,
là je trouve que ça c'est malin.
Celle sur Slipknot, parce qu'en plus pour moi la BD telle que je l'envisage, il y a différentes personnes qui se présentent. La partie sur Metallica par exemple, où tu vois que les découpages en fait c'est plus faire documentaire, ça me fait un peu moins penser à de la bande dessinée telle que je le conçois. C'est-à-dire que on me raconte une histoire, mais on l'illustre, en fait. Ça fait plus chapitre illustré par des dessins dans des cases, plutôt qu'une bande dessinée où il y a une action qui se poursuit à travers différentes cases, quoi. Bon, après, c'est peut-être moi qui deviens un peu plus... qui essaye de chercher la petite bête, mais bon. C'est le format en lui-même et le fait de passer en plus par différents types de narration rendra sûrement l'objet d'une manière assez, de manière générale, assez plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, ça a l'air plutôt sympa, parce que pour le coup, bon, c'est pas comme s'il y avait besoin, enfin, je sais pas, pour moi en tout cas, d'un point de vue historique, bon, je pense que j'apprendrais pas forcément grand chose, tu vois, parce que c'est des groupes plus certains que j'ai connus, d'autres que j'ai lu des biographies de manière différente, donc. Forcément, c'est moins intéressant. Mais d'un point de vue visuel, ça a l'air toujours assez cool. Donc, et puis, c'est une bonne manière de condenser les choses. Je trouve que c'est quelque chose que les bonnes BD documentaires, il va bien faire. En tout cas, pour moi, on prend un outil multimédia. En fait, généralement, moi, ça m'a toujours permis de mieux retenir les choses, de mieux retenir les informations qu'on m'offrait. Donc, je suis pas du tout au contre. J'aime beaucoup, par exemple, Peter Page, qui a fait beaucoup de documentaires journalistiques en bande dessinée, où lui, il prenait quelques pages, en fait, et il allait interviewer des gens. Donc, c'était pas comme pas comme Joe Sacco, justement, où il raconte une histoire telle qu'il l'a vécue lors de son reportage. Mais là, pour le coup, Peter Page, qui faisait plus avec des en fait illustrait certains de ses d'interviews ou certaines théories qui étaient expliquées par les personnes qui l'interviewaient, ou qui mettaient ça en bande dessinée, et ça je trouve ça toujours assez intéressant, et j'aime vraiment beaucoup justement sa manière de raconter, je trouve toujours extrêmement maîtrisé. Donc je sais pas comment eux vont gérer les choses, j'espère qu'il y aura un peu de ça, tu vois, que
alors ce qu'on peut voir des extraits donc sur le site de l'éditeur, à chaque fois il y a quelqu'un qui raconte, il y a un narrateur qui dont les propos sont illustrés par des casse, donc on est quand même assez proche du roman graphique de ce point de vue-là. Des fois, même le narrateur est mis en scène dans la BD, oui. Comme dans le cas de Slipknot ou de Metallica. Par exemple, sur la planche qui raconte... Alors, j'aurais un doute de savoir qui c'est, de quoi on parle, mais il y a un narrateur qui est mis en phylactère, et après, t'as la case, t'as un dessin avec des bulles classiques, quoi. Et c'est vrai que... je trouve vraiment qu'il y a le traitement est... Enfin, c'est super intéressant d'avoir osé faire ça comme ça, quoi. Et le sujet plus le choix de la mise en page me... C'est lui, il sera mis en vente le 8 novembre. Pour info, il est déjà précommandable sur Amazon, si jamais vous voulez. Ou sur le site de l'éditeur. Non, il n'est pas encore disponible sur le site de l'éditeur. Mais moi je suis...
Ça donne assez
super envie. Reco.
Du coup, reco pour l'instant. En tout cas, c'est plutôt une news plutôt qu'autre chose. Parce que pour le coup, du coup, on n'a pas pu le lire. Mais oui. En tout cas, oui, ça m'intrigue pas mal. Du coup, je pense que je prendrai quand je pourrai le prendre. Et on en reparlera peut-être dans l'émission, du coup, quand ça sortira. Mais en tout cas, c'est je trouve une petite initiative assez intéressante qui vaut le détour. Donc, jetez un œil dessus et faites-vous votre idée. Mais en tout cas, ça vaut le détour.
Ouais, non, c'est extrêmement... Et puis, pour une fois... Je connais pas du tout les deux auteurs principaux.
Moi j'ai reconnu aucun nom, j'ai regardé un peu leur, pas pour tous les illustrateurs et illustratrices, mais voilà, les noms que j'ai cités, c'est des gens que j'ai découverts en regardant le listing, donc c'est pas des artistes en tout cas ça m'a donné envie de creuser certains, genre Mad par exemple, je trouve ça, son style il m'a beaucoup interpellé, mais ouais, non, c'est vraiment des gens un peu divers et variés, qui n'ont pas forcément une grosse bibliographie derrière eux. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses. Encore une fois, une variété de style et tout, qui laisse présager un bouquin assez, assez intéressant, ou en tout cas assez varié pour qu'on y retrouve, un peu tous ces petits en fait, là-dedans.
Ouais. Et puis visuellement, je pense que ça reste... Alors, on en revient à la question, c'est parti pour être un bel objet. Donc, dans tous les cas, ça peut faire un beau cadeau dans tous les cas. La couve est assez cool, honnêtement. Ce maquillage Kiss, entre Kiss et The Crow, parce qu'on est quand même avec le blouson de cuir, avec les clous en carré à l'ancienne, et puis les patchs, et le mot métal embrodé, sur un bleu noir, là, c'est bleu noir blanc, là, c'est très, 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 très cool. Ah ouais, ça va faire un beau cadeau, ça, je le sens. Et je crois que c'est bien, on va finir là-dessus. Qu'en penses-tu ? C'est bien, c'est donc la fin de notre épisode. On espère qu'il vous aura plu ou pas. N'oubliez pas que vous trouvez nos recos sur nos playlists Tidal et Spotify, que vous pouvez nous retrouver sur nos différents mastodons. Donc, c'est moi, c'est Arnaud Doucet, Arnaud Doucet. Et si votre serveur était assez ouvert, vous me retrouverez sans souci.
Et moi, c'est Auro sur nordculture.de, mais aussi sur Instagram, sur le Instagram de Rokozik, Rokozik Podcast. Vous nous retrouvez
avec
nos stories et tout et tout.
Où tu fais le service après-vente quand tu vois passer des trucs sympas sur les groupes dont nous avons parlé dans le podcast. Tu as toi-même ton site delenanddistortion.com sur lequel tu continues toutes tes chroniques d'albums dont nous parlons des fois ou pas, ou des fois nous reparlons pas du tout. Et puis surtout avec tous tes reports de concerts auxquels tu participes. Yes. Et ben voilà, on vous dit prenez soin de vous et à bientôt.
À bientôt.